Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Xavier Besson nous en parlait à l'instant dans le journal. Plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement sont arrivés à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Comme tous les ans, les dirigeants vont pouvoir s'exprimer à la tribune. D'ailleurs, que l'on soit petit ou grand, chaque pays dispose du même temps de parole, 15 minutes pour livrer leur vision du monde. Évidemment, la prise de parole de Donald Trump est très attendue. Lui qui ne cesse de critiquer l'ONU, cette organisation qu'il considère, je le cite, comme un club où les gens se rassemblent, bavardent et passent un bon moment. Le discours d'Hassan Rouhani, le président iranien, sera également scruté. Au cours de cette première journée, les présidents du Nigeria, du Burkina Faso, du Rwanda, du Niger ou encore du Sénégal doivent également s'exprimer. L'Assemblée générale des Nations unies, ce sont des discours mais aussi des rencontres, des tête-à-tête, ces fameuses réunions bilatérales qui se tiennent en dehors de la tour des Nations unies. L'occasion, en tout cas ce matin, de vous entendre justement sur cette organisation, sur les Nations Unies, sur l'efficacité de l'ONU, de son Conseil de sécurité, régulièrement critiqué pour son impuissance, notamment en Syrie, au Yémen ou en Libye. Quelle image avez-vous de l'ONU? Peut-on se passer des Nations Unies? 33 9 693 693 70. On va en parler tous ensemble durant les 20 prochaines minutes. Et on va commencer avec vous, Francis. Bonjour.
Bonjour, Yann Gomez.
Vous êtes à Brazzaville et vous faites partie des très rares qui nous ont envoyé un message ou qui nous ont contacté au standard pour dire qu'on ne pouvait pas se passer des Nations Unies.
Oui, bien entendu, tel est mon point de vue en tant qu'Africain. Je pense que les Nations Unies restent une organisation importante pour la paix dans le monde, pour les relations entre les États et les différentes associations civiles, bref. De ce point de vue, l'ONU reste importante. Le grand problème, le grand défi aujourd'hui, c'est de lui donner les moyens de sa politique et surtout d'essayer de la réformer afin qu'elle puisse s'accommoder des nouveaux enjeux, des nouveaux défis et surtout des nouveaux problèmes qui se posent aux différents pays du monde.
Ouais, quand vous dites qu'il faut lui donner les moyens de sa politique, encore faut-il que les chefs d'État, les 193 dirigeants dans cette planète, lui donnent ce pouvoir. Le secrétaire général de l'ONU n'a le pouvoir que veulent bien lui donner, les chefs d'État.
Oui, bien entendu. Je prends l'exemple du Conseil de sécurité. Vous voyez, ce sont 5 pays dont la configuration a été dictée par le résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, plus de 70 ans, près de 70 ans après, le monde aujourd'hui n'obéit plus à ce schéma. Oui. Il y a de nouveaux pays qui ont émergé, qui aujourd'hui deviennent de plus en plus puissants, qui ont une voix à poser ou à imposer sur la marche du monde. Quand je prends le continent qui est le mien, c'est-à-dire l'Afrique, du point de vue de la démocratie, du point de vue de la superficie, et même du nombre de pays qui la composent, l'Afrique, je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui que l'Afrique puisse avoir sa place au niveau du Conseil de sécurité que nous appelons de tous nos voeux.
Alors l'Afrique, attendez, pour être précis, je chipote un peu, mais c'est important. L'Afrique a sa place au Conseil de sécurité, mais pas en tant que membre permanent. Il y a 5 membres permanents, vous les avez vaguement évoqués tout à l'heure, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, plus 10 autres pays qui, eux, changent tous les 2 ans, et systématiquement, il y a 3 pays du continent africain qui, contrairement aux 5 membres permanents, ces pays-là n'ont pas le droit de veto. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est ça qui fait le poids, avec d'un côté les membres permanents et de l'autre les non-permanents. Il y a par exemple Abel qui nous dit « Mais l'ONU a besoin de réformes institutionnelles. La configuration géopolitique mondiale de 1945 n'est plus celle de 2019. De nouvelles puissances régionales ont vu le jour. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Iran. Le Conseil de sécurité doit être réformé pour intégrer ces nouvelles puissances. Et, dit-il, il faut abroger le droit de veto. Francis, vous avez un point de vue, vous, sur le droit de veto? Il faut le supprimer?
Oui, bien entendu, si j'ai une première revendication, c'est celle-là, c'est-à-dire la suppression du droit de veto, parce que on ne peut pas comprendre qu'il y ait des États qui, pour les raisons données, doivent imposer ou encore s'opposer à une certaine dynamique, pendant qu'il y a d'autres pays que vous avez cités, qui comptent beaucoup, mais qui, malheureusement, pour les mêmes raisons d'hier, aujourd'hui, ne peuvent pas imposer leur point de vue et donc restent des victimes, hein, si je peux dire.
Ils peuvent l'exprimer, mais pas l'imposer, effectivement. Vous avez raison, Francis. Attendez, restez en ligne. Je vois que c'est un sujet qui vous passionne, hein, visiblement, à Brazzaville. Willy, bonjour.
Bonjour, Anne Gomez, bonjour.
Vous souhaitiez également nous interpeller sur ce droit de veto.
Justement, le droit de veto, le fameux droit de veto, qui n'est accordé qu'à 5 pays sur 192 dans le monde, avec les nouvelles configurations qu'on évoquait tout à l'heure avec cet appel-là, ce qu'on fait qui appelle de l'autre côté, c'est-à-dire le monde a changé, les données changent. Et il y a des pays qui veulent également disposer de ce droit de veto. Encore que ce droit de veto a un problème. Quand on regarde les 5 membres, ils appartiennent à deux axes sur les enjeux géopolitiques, parce que nous avons la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Qui sont d'un côté, et là nous avons les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne qui ont aussi leur lecture. Ça fait que quand on se fixe à la guerre en Syrie, par exemple, si la Fédération de Russie voudrait initier, voudrait convoquer une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies pour une résolution, la coalition internationale sous la bannière des Américains va bloquer.
Et vice versa. Oui. Puisque vous parlez du dossier syrien et vous parlez du veto, il y a quelques jours, la Russie a usé de son droit de veto pour la 13e fois depuis le début du conflit en 2011. C'est la 13e fois que la Russie bloque une résolution. Et là, il s'agissait, entre autres, d'imposer un cessez-le-feu à Idleb. Les Russes avaient également ont eu le soutien de la Chine. Donc voilà deux pays qui bloquent une résolution.
Justement, voilà pourquoi je parlais de ce droit de veto. Bon, en fait, ce blocage-là qui peut être observé, ça paralyse le fonctionnement des Nations Unies, qui peuvent donc désormais paraître peut-être inefficaces. Bon, la question c'est, comment est-ce que on peut peut-être élargir le nombre de membres permanent au niveau des conseils de sécurité. Parce que si on n'est pas aligné du côté des Russes, on sera forcément obligé d'être aligné du côté des Américains pour une question internationale. Et c'est là où ça fait problème.
Ouais, ça fait problème, et Kofi Annan avait essayé en son temps de réformer hein, le conseil de sécurité de l'ONU. Regardez, nous sommes en 2019 et il n'y a toujours pas de réforme. Je vous redonne très vite la parole, Francis, mais soyez bref, hein, vous avez eu le temps largement avant Willy de vous exprimer.
Oui, justement, pour dire simplement que je n'ai pas besoin d'aller dans les détails sur les réformes que nous voulons. L'Afrique, de façon majoritaire, avait mis en place ce qu'on appelle le CEDIS, c'est-à-dire le comité de 10 pays, chargé de réfléchir et de soumettre aux Nations Unies une série de résolutions. Si on peut ne fût-ce que prendre ces résolutions en ligne de compte, je pense que on peut aller vers l'amélioration des choses, du moins du point de vue de l'Afrique.
Oui, ça a l'air simple en vous écoutant, Francis, mais en même temps, vous savez bien que l'Afrique est divisée concernant la place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Quel pays doit figurer comme membre permanent? Est-ce une locomotive comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud? Est-ce un pays francophone, anglophone? Enfin, vous voyez, l'Afrique est tiraillée également sur cette question. On prolonge ce débat qui est passionnant. 33 9 693 693 70. Clément, bonjour.
Bonjour Monsieur Rouhan, comment vous allez?
Bah écoutez, ravi de débattre avec vous ce matin sur l'efficacité des Nations Unies. Quelle image avez-vous de l'ONU, Clément?
Très mauvaise image, c'est sûr. Comme organisation qui, normalement, devait donner l'espoir à l'opinion publique ou plutôt aux populations du monde, je crois qu'on est très déçus. Parce que là encore, une fois, on se retrouve dans une organisation où les plus riches dictent juste leurs lois aux plus pauvres, tout simplement. J'ai bien suivi attentivement les deux autres intervenants avant, mais la question pour moi, il est crucial plutôt dans le droit de vote, non pas comme membre permanent du Conseil de sécurité, parce que les membres permanents du Conseil de sécurité font amalgame parce que c'est eux qui disposent de droits de veto. Et du coup, toute la dynamique mondiale n'est que dirigée par ces 5 pays. C'est tout. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut réformer? Les réformes ne peuvent pas marcher depuis 1946 parce que justement, c'est que ce sont ces riches-là qui imposent leurs lois et leur volonté à la population mondiale.
Oui, donc vous partagez le point de vue de Nambia sur Facebook qui nous dit « Si on pense encore que l'ONU peut résoudre des crises, on se met le doigt dans l'œil. Chaque État membre ne voit que ses intérêts. Tout cela n'est que du folklore. On se réunit et on adopte des résolutions qui n'engagent que les signataires. »
Absolument. Et là, c'est une bonne transition vers l'Assemblée générale qui se tient là en ce moment à New York. Mais ça, c'est quoi cette Assemblée générale? Chaque pays a 15 minutes pour parler, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça se décide? Rien du tout. Chacun vient exprimer son point de vue. Aucune décision, aucun consensus. Et y a aucune résolution, aucune compréhension.
Oui, alors le rassemblement en tant que tel, la 74e session de l'Assemblée Générale, ce sont effectivement des discours, mais je le disais tout à l'heure en préambule, ce sont surtout des rencontres, des tête-à-tête, des réunions bilatérales, des chefs d'État qui, soit deux, trois ou par quatre, vont se réunir, vont aborder des questions, par exemple concernant l'Afrique, qui sera à un moment donné entre chefs d'État, question de la Libye, d'autres vont parler de la situation sécuritaire au Sahel, par exemple certains chefs d'État vont plutôt s'intéresser à la situation au Cachemire, vous voyez, donc ça permet, si vous voulez, d'être dans une suite, dans un hôtel, et de pouvoir comme ça discuter, dialoguer, peut-être que on ne trouve pas des accords de paix, mais on peut-être éviter justement que des situations s'enveniment encore davantage. Mais l'Assemblée générale des Nations Unies, elle a quand même un rôle, elle adopte des résolutions qui certes ne sont pas contraignantes, mais elle adopte des résolutions.
Mais ça reste des résolutions non contraignantes une fois en plus. Et moi, en tant que contribuable lambda dans un pays, pourquoi je dois payer énormément de frais pour justement la participation à cette Assemblée générale, ouais, qui m'apporte rien du tout? Est-ce que les populations du monde ont conscience de ça? Nous payons, c'est vrai, ces chefs d'État qui arrivent, ils vont sur les frais du contribuable, ça c'est certain. Mais qu'est-ce que ça rapporte au contribuable? Qu'est-ce que le contribuable bénéficie de cette messe qui se passe pendant toute cette période de septembre?
Clément, je vous interromps, je sentais bien que vous pouvez aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à l'émission de Caroline Paré. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Allez, un petit détour tout de même sur la page Facebook de l'émission. Aboubacar considère l'ONU comme une institution qui garantit la sécurité des États forts. Adrien affirme, lui, que l'ONU est un syndicat des chefs d'État avec son conseil d'insécurité pour les faibles. Je vois qu'il y a des jeux de mots, hein, dans les commentaires des auditeurs ce matin. Et allez, un dernier avant de retourner au standard. Aboukari, qui nous dit que ce que fait l'ONU, ce qui fait que l'ONU ne fonctionne pas, c'est bien ce fameux droit de veto. Bonjour Fossard.
Bonjour Juan.
Quelle image avez-vous depuis Dakar de l'Organisation des Nations Unies?
Disons que ces dernières années, nous avons constaté qu'il y a une faiblesse, disons, de l'ONU, compte tenu peut-être de l'arrivée de Donald Trump, qui quand même a bouleversé un peu la géopolitique mondiale en, disons, décrédibilisant un peu le multilatéralisme, et qu'aujourd'hui tout le monde contourne l'ONU et chacun fait ce qu'il veut et sans conséquence. Et à ce niveau-là, un des auditeurs l'a dit tout à l'heure, vous avez deux camps, soit vous êtes avec les Américains, soit vous êtes avec les Russes, les Chinois. Mmh. Et ce qui fait que nous avons encore cette polarisation qui fait que il y a une inefficacité de l'ONU, qui fait que toutes les résolutions qui passent là-bas sont actuellement soit rejeté, soit mal appliqué.
Ouais. Mais vous pointiez du doigt, excusez-moi, Fossard, vous pointiez du doigt Donald Trump. Oui, il critique les Nations Unies, mais est-ce qu'il a tort dans le fond quand il dit que le budget de l'ONU a augmenté de 140% ces dernières années, que les équipes ont doublé depuis 2000, et il dit nous ne voyons pas les résultats conformes à cet investissement?
Oui, l'investissement, c'est à deux niveaux, je pense. D'abord, sur les questions de développement. Effectivement, sur le terrain, il y a toujours ce manque de visibilité des résultats, notamment dans certains pays pauvres, en Afrique ou, je sais pas, dans d'autres parties du monde. Il y a un manque de résultats sur le plan du développement humain, etc., socio-économique. Ça, c'est visible, ce qui fait que peut-être l'appareil de l'ONU, notamment les charges de fonctionnement, etc., coûtent excessivement cher, et que fine, une petite partie de ces montants-là arrive au niveau des populations pour des projets de développement. Mmh. De l'autre côté, il y a la question de la sécurité dans le monde également. Il y a une inefficacité, vous l'avez dit tout à l'heure, ou certains des auditeurs l'ont dit, c'est la question du droit de veto qui bloque cet instrument-là, et que personne, il y a cette jalousie pour garder ce privilège-là. Ah oui. Or, compte tenu du fait que le monde a bougé, les puissances montent, les nouvelles puissances n'en ont cure de l'ONU, de son Conseil de sécurité.
Ouais. Aujourd'hui, l'Afrique veut sa place au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent, mais d'autres pays réclament. Le Japon, qui est l'un des principaux bailleurs de fonds des Nations Unies, dit « moi aussi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je n'aurai pas ma place permanente au Conseil de sécurité ». Je vous interromps, mais merci beaucoup Fossard. Bonne journée à Dakar, où on nous écoute sur les 92 FM. Pendant que je vous parle, je lis les commentaires, celui de Fousseini. L'ONU est inefficace, mais c'est un mal nécessaire, car c'est une tribune où tous les pays du monde, grands comme petits, ont droit à la parole. Patrice, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour tous les auteurs de RFI.
À Bamako, Patrice, vous avez l'impression que l'ONU est une institution budgétivore. Voilà, c'est ce que vous retenez, vous, des Nations Unies.
Oui, Anne, je suis parfaitement d'accord. Pour une fois dans ma vie, je suis d'accord avec le président Trump. Quand vous augmentez un budget de 140% et que vous n'avez pas de résultats sur le terrain, je pense qu'il faut vraiment, à mon avis, réformer ces Nations Unies-là. Tenez, je vais vous donner par exemple. Au vu de la population à Bamako, nous comprenons que les Nations Unies ne font plus rien parce que sur le plan de développement, il y a quelques actions, certes, mais ils ne sont pas venus, la municipalité n'est pas venue à Bamako pour les activités de développement. Il y avait des ONG qui s'en occupaient. Ils sont venus pour les questions sécuritaires.
Oui.
Mais quand vous allez au nord, vous allez remarquer que la population est toujours soumise à des insécurités, à des mouvements, des rebelles, à des tractations, à des attentats. Donc ça veut dire que ça marche pas. Mais curieusement, vous allez remarquer que ces policiers-là, ces métiers qui sont venus pour faire la paix à Bamako.
Quand vous dites ces policiers, ce sont les casques bleus.
Les casques bleus, je veux dire.
Oui.
Et quand ils rentrent chez eux dans leur pays, ils construisent des maisons, des villas, ils ont une belle vie, ils roulent carrosse, la preuve. Nous, nos Maliens qui partent de l'autre côté dans des missions, quand ils reviennent chez nous, ils construisent, pas possible. Ça veut dire que tout l'argent investi n'est que pour les intérêts des individus et des Nations Unies.
Ou un deuxième exemple. En même temps, excusez-moi, je suis pas là, je me fais pas l'avocat des Nations Unies, ni des casques bleus. J'espère qu'on aura l'occasion d'organiser prochainement un face-à-face, un dialogue avec le patron des casques bleus. Il est français, donc ce serait bien qu'on, voilà, c'est dans les tuyaux pour dire les choses de façon simple. Mais Patrice, déployer des casques bleus sur le terrain, cela coûte très cher. Vous pouvez pas dire que tout l'argent est dilapidé. Vous voyez, c'est un peu, ce serait, si vous me permettez, un peu simpliste comme remarque, non?
Non, mais ouais, je vais donner des exemples, il y en a beaucoup. Regardez par exemple, je vais continuer. Remarquez, on parle au Congo que ceux qui sont déployés, c'est sous les Nations Unies qui sont là. Ils sont en train de prendre des coltrans et tout. En Centrafrique, le diamant part avec ces mêmes personnes. Au Mali, c'est la même chose. Moi, je vais vous dire une chose, Juan. Ils sont venus pour la sécurité. Moi, je veux bien que les Nations Unies existent, mais pas pour les intérêts. Deuxième fait. Tous les présidents qui se sont succédés, j'ai pas dormi la nuit pour regarder ce que le président allait dire. Il parle d'une notion de l'écologie, qui est une bonne chose. C'est vrai, réchauffement climatique, qui est une bonne chose. Mais qui n'est pas une priorité pour les pays africains qui ont une situation difficile, là où les missions des ONU sont déployées.
Bien sûr, j'entends bien. Ce n'est peut-être pas une priorité pour vous, mais c'est aussi une priorité, une urgence pour le continent africain. Tout le monde est concerné par le réchauffement de la planète. Les réfugiés climatiques, ce seront demain, après-demain, en partie des habitants du continent africain. Donc vous voyez, c'est une priorité, que vous le souhaitiez ou pas, c'est comme ça, Patrice. Après, effectivement, je comprends bien que votre priorité numéro un, c'est la sécurité. On aurait pu passer la matinée à débattre sur les Nations Unies. Merci vraiment de l'intérêt que vous portez à l'émission. On aura l'occasion d'y revenir, c'est promis, pourquoi pas. Alors, pas vendredi, puisque vendredi, émission spéciale, journée spéciale, émission spéciale. Manu Dibongo sera dans nos studios pour ses 60 ans de carrière, et il sera notamment le rédacteur en chef d'Appel sur l'actualité. Donc si vous souhaitez dialoguer, commenter l'actualité avec Manu Dibongo, inscrivez-vous dès maintenant. Demain, on parlera de la mobilisation inédite au Maroc au nom des libertés individuelles. 490 femmes se sont déclarées hors la loi pour dénoncer l'hypocrisie de la société. Dans une tribune, elles reconnaissent avoir eu des relations sexuelles hors mariage et d'avoir subi un avortement, violant ainsi les lois de leur pays, des lois qu'elles qualifient d'obsolète. On va parler de ce mouvement de contestation demain tous ensemble. Merci de votre fidélité.